Castorama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui plongé dans le mouvement anarchiste avec l'arrestation de Ravachol, c'était le 30 mars 1892. Né à Saint-Chamond d'un père hollandais, Claudius Koenigstein adopte le patronyme de sa mère, Marie Ravachol. Pour un anarchiste, cela sonne nettement mieux. Un anarchiste doublé d'un bandit. En effet, en 1886, à la Varizelle, dans la Loire, il assassine pour les voler un petit rentier octogénaire et sa vieille servante. Forfait qu'il renouvelle 5 ans plus tard en abattant une quincaillère de 73 ans et sa fille, les dames Marcon. Mais dans l'un et l'autre cas, le butin est bien mince. Aussi, durant la nuit du 14 au 15 mai 1891, Ravachol se livre-t-il à une expérience particulièrement ignoble, mais qu'il croit nettement plus rentable. Persuadé que la baronne de Rochetaillé, décédée 6 mois plus tôt, s'est fait inhumer avec ses bijoux, il pénètre dans le petit cimetière de Saint-Jean-Bonnefonds, déplace avec peine la lourde pierre tombale, descend dans le caveau et fracture le cercueil pour n'y trouver sur un corps en décomposition qu'un crucifix de bois et une médaille sans valeur. Il décide alors d'en revenir au vivant à condition qu'il ne puisse pas lui opposer une résistance trop vigoureuse. La même année, il étouffe un nonagénaire isolé, Jacques Brunel, ancien frère de la doctrine chrétienne, surnommé l'ermite des Chambles par les habitants du Forez. Son crime accompli, Ravachol descend au village pour y prendre un solide repas, puis il remonte à la bicoque de sa pauvre victime, dont à la lueur d'un cierge, il pille le magot. Près de 35 kilos de pièces d'or et d'argent provenant de diverses aumônes accumulées. Identifié, arrêté, il parvient à s'évader lors de son transfert et à se perdre dans la nature. C'est à Paris que nous retrouvons sa trace à l'hiver 1892. Dans le paisible crépuscule du 11 mars, 5 personnes quittent Saint-Denis pour gagner Paris. Chaumartin, Simon, Ravachol et un certain Béala, escorté de sa concubine Mariette Soubert, dont le rôle est de franchir l'octroi sans encombre en dissimulant une bombe sous ses jupes. Le danger passé, elle rend cet explosif à Ravachol et s'en retourne avec Chaumartin. Arrivé devant l'immeuble du 136 boulevard Saint-Germain, Ravachol prend la bombe, passe dignement devant la concierge et dépose son engin au 2e étage avant de rejoindre ses complices. Peu après, une violente explosion ébranle l'édifice. Les terroristes satisfaits regagnent Saint-Denis. Toutefois, Ravachol apprend le lendemain par la presse que son attentat n'a causé que des dégâts matériels. Le conseiller Benoît, cible de l'action terroriste, est en effet indemne. La police trouve vite la preuve qu'il s'agit d'une menée anarchiste et non d'une fuite de gaz, comme certains l'ont affirmé dans un premier temps. Chaumartin est aussitôt arrêté, mais Ravachol court toujours et l'enquête piétine. Demeuré à Paris, où il a seulement pris la précaution de changer de domicile, il prépare un second attentat, cette fois contre l'avocat général Bulot. Mais avec de puissants moyens cette fois. Il bourre une innocente valise de 25 cartouches de dynamite qu'il noie dans de la poudre de mine. Il agit cette fois en solitaire. À l'aube du 27 mars, Ravachol quitte sa nouvelle résidence de Saint-Mandé, valise à la main comme s'il s'absentait pour un court voyage. Arrivé vers 8 heures au 39 rue de Clichy, il franchit sans difficulté la porte de l'immeuble laissée entrouverte par un fournisseur négligent et dépose à tout hasard sa machine infernale à mi-hauteur de la maison. Des difficultés d'allumage des mèches retardent son repli et à peine est-il sorti qu'une épouvantable déflagration secoue le quartier. Il se ment une panique monstre. Elle souffle la cage d'escalier de l'immeuble, mais ne fait que 5 blessés graves. Ironie du sort, l'avocat général Bulot est sauf. Persuadé d'avoir atteint son objectif, Ravachol s'arrête au restaurant Véry, boulevard Magenta. Là, il se répand en propos anarchistes, en particulier auprès de Jules Léraud, beau-frère du patron. Se rendant compte qu'il a oublié son indicateur de chemin de fer, Ravachol retourne 3 jours plus tard dans la maison de Bush. Or, son portrait et son signalement ont été diffusés dans la presse, notamment dans les colonnes de l'édition du jour du Petit Journal. Jules Léraud a maintenant des soupçons. En effet, l'individu qui pousse la porte du restaurant le 30 mars correspond trait pour trait à Ravachol. Élégant, d'une taille supérieure à la moyenne, il a de longs pieds et de longues mains, le teint bilieux, le visage osseux avec une moustache et des cheveux noirs. Fort ému de sa découverte, Jules Léraud en parle à son beau-frère qui se précipite au poste de police le plus proche. Escorté de 4 agents de ville, qui laissent en faction à la porte, le commissaire Dresch pénètre dans le restaurant Véry et repère rapidement le dîneur. Se sentant observé, Ravachol se lève et se dirige vers la sortie, suivi par un policier. À peine a-t-il franchi la porte du restaurant que celui-ci le saisit par le bras en criant « Police !» Mais d'une force peu commune, le terroriste se débat, sort son revolver, rue, mort, griffe, se roule sur le trottoir. Il faut une demi-douzaine de policiers pour le désarmer et le maîtriser. Ramené au poste, Ravachol parvient à s'emparer d'un sabre avec lequel il fait des moulinets menaçants. Le commissaire se hâte de transférer ce dangereux prévenu. Cependant, dans le fiacre qui le conduit sous bonne escorte au quai des Orfèvres, Ravachol tente d'ameuter les passants ou d'éventuels sympathisants. Une quittance de loyer correspondant aux 68 grands rues à Saint-Mandé a été trouvée dans les poches de Ravachol. La perquisition livre un petit arsenal. Les ingrédients nécessaires à la fabrication de bombes, un matériel de faux-monnayeurs et un attirail de cambrioleurs. Chargé de l'instruction, le juge Attalion mène rapidement la procédure. Ravachol est renvoyé devant les assises de la Seine le 27 avril. Les milieux anarchistes ne manquent pas de réagir. La veille du procès, une bombe de forte puissance déposée par Théodule Meunier explose au restaurant Véry. Elle projette la devanture jusqu'au milieu de la chaussée en criblant d'éclats de verre un tramway. Le bilan humain est lourd, plusieurs blessés et 2 morts, dont le patron de l'établissement. C'est donc dans une atmosphère de peur que s'ouvre le procès de Ravachol et de ses complices, Simon, Chaumartin, Béala et Mariette Soubert. Pour éviter les incidents, le palais de justice de Paris est mis en état de siège. Cour déserte, grille fermée, entrée soigneusement filtrée, carte de presse et assignation sévèrement contrôlées, la cour prononce un verdict mitigé de clémence qui indigne l'assistance. Bénéficiant des circonstances atténuantes, Ravachol et Simon échappent à la peine capitale. Ils sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Les 3 autres accusés sont acquittés. Mais Ravachol doit encore répondre des crimes de droit commun naguère commis dans le département de la Loire. 2 mois plus tard, à Montbrison, les assises le renvoient à la guillotine. « Vive l'anarchie » crie-t-il après le prononcé de la sentence. Il monte sur l'échafaud le 11 juillet 1892. Nous nous retrouvons dans un instant pour la chronique littéraire. Un jour, 3 livres. Mais d'ici là, nous allons marquer une pause musicale avec Indochine. Nous écoutons Le Lac.
J'arrive pas très fier de moi. Je prie pour que tu sois là, comme si la vie n'avait pas changé. comme celle que tu es, comme celle que tu étais. Dire
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres que j'ai puisés dans l'excellente collection des dictionnaires amoureux aux éditions Plomb, collection qui a débuté en l'an 2000 et qui se nourrit de livraisons régulières. Je vous présente aujourd'hui les trois dernières nouveautés. Le romancier Pierre Lemaître, titulaire du prix Goncourt, propose son dictionnaire amoureux du polar. Il nous promène dans l'univers singulier de ce genre littéraire. Les différentes occurrences permettent de retrouver les grandes plumes de cette littérature. À lire absolument l'article consacré au duo majeur composé par les maîtres Pierre Boileau et Thomas Narcejac, dont les œuvres ont été portées à l'écran par Henri-Georges Clouzot et Alfred Hitchcock. Je vous recommande également ceux dédiés à Georges Simenon, Daniel Pennac, Maurice Dantec, pionnier du cyberpolar dans les années 1990, ou encore Didier Denix, que j'ai eu le plaisir de recevoir au micro de Radio Judaïca. N'oubliez pas de parcourir les textes sur Arsène Lupin, le personnage de Maurice Leblanc, et Le Parrain, la trilogie cinématographique de Francis Ford Coppola. Laurent Binet et Antoine Beneteau nous plongent dans l'univers du tennis avec le dictionnaire amoureux consacré à ce sport. Ils reviennent sur les gloires passées, Bjorn Borg, Jimmy Connors, Arthur Ashe, Chris Evert, John McEnroe, Martina Navratilova, Suzanne Lenglen, Ivan Lendl, Yannick Noah, sans oublier les mousquetaires, René Lacoste, Jacques Brugnon, Jean Borotrap et Henri Cochet qui marquèrent la période de l'entre-deux-guerres. À découvrir aussi les doubles occurrences consacrées à des tennismans d'aujourd'hui, Roger Federer et Rafael Nadal. Le philosophe André Comte-Sponville clame sa passion pour Michel de Montaigne à travers les pages du merveilleux dictionnaire amoureux qu'il lui consacre. Il présente avec une grande clarté la pensée profonde de l'auteur des essais qui témoigne d'une grande modernité dans le monde chaotique que nous connaissons. Il faut s'arrêter en particulier sur les entrées dédiées au bonheur, à l'âge, au désespoir, à la mort et au temps, sans omettre le texte consacré à Étienne de la Boétie, l'ami d'une vie. C'est lumineux. Voilà pour cette émission Historama. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Je remercie Lucas qui l'a réalisé. Et nous nous séparons en musique avec Indochine. Nous écoutons Belfast.
Je suis à la mauvaise place. passerai nuit sur un toit à regarder les orages et en courant les dangers des éclairs sur ton visage et les étoiles près de toi.